Physique, Père Philippe, 26 novembre 1982.
On a suffisamment insisté sur le lien entre le jugement d'existence et l'interrogation. Nous allons donc maintenant essayer de voir comment nous pouvons répondre à cette interrogation: qu'est-ce que l'être? Oui, je vous ai fait un peu lambiner exprès, non? Donc, au moins que cette interrogation prenne toute sa force en vous. C'est nécessaire, parce que si j'avais répondu tout de suite, vous n'auriez pas vu l'importance de l'interrogation. Le TST par rapport au Toeinein, voir qu'est-ce que c'est que l'être. Alors, je reviens à l'expérience, forcément. À l'expérience, ceci est. Alors, prenez où je suis, c'est comme vous voulez. Ça me dit là. Le tout, c'est de comprendre qu'en revenant à cette expérience, vous illuminez cette expérience uniquement sur la partie est. Donc, vous niez le ceci. Autrement dit, quand je reviens en interrogeant qu'est-ce que c'est que l'être, je dis tout de suite, l'être n'est pas le ceci. Ça, c'est très important. Je crois qu'il y a une première partie négative dans toute induction qualitative qui est nécessaire. Procédez, si vous voulez, pour essayer de bien voir. Attendez, les difficultés du sujet, hein, c'est pas comme ça. Il s'agit de dépasser, justement, le ceci. Alors, vous voyez, c'est intéressant, le ceci, qu'est-ce que c'est? Je prends ici un langage aristotélicien. Le ceci. Regarde la substance première. Et ceci implique justement d'être le sujet auquel est attribué les 10 catégories. Tout le monde sait ce que c'est que les 10 catégories maintenant, j'espère. Hein? Je vous l'ai déjà dit, il faut les savoir et les comprendre. Les déterminations fondamentale et première de ce qui est. Alors, quand je dis ceci, vous comprenez qu'il y a là quelque chose de très important à voir. Quand je dis que, qu'est-ce que c'est que l'être? L'être n'est pas le ceci. Je suis parti du ceci est, j'ai illuminé le point de vue de est pour le point de vue de qu'est-ce que c'est que l'être, et en revenant au ceci est, à la réalité existante, je dis l'être ne peut pas être toutes les déterminations de la réalité. Première affirmation. C'est l'aspect négatif. Et je crois ça très important à bien saisir. Hein? L'aspect négatif. L'être ne peut pas être toutes ces déterminations. Or, la première détermination, c'est le ceci, cette réalité qui existe. L'être n'est pas identique à cette réalité qui existe. Donc, quand je pose qu'est-ce que c'est que l'être, l'être ne peut pas s'arrêter à cette table. Je ne peux pas dire l'être, c'est cette table. L'être, c'est moi. Alors, vous seriez-vous dans le néant? Ce serait l'orgueil suprême, hein, au point de vue métaphysique, de dire l'être, c'est moi. Pour encore à la rigueur dire l'homme, c'est moi, à la manière de Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Mais vous ne pouvez pas dire l'être, c'est moi. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Je suis. C'est la force de cette affirmation telle que nous pouvons le regarder. Bon, alors, l'être n'est pas le ceci. Or, le ceci, il contient toutes les autres catégories qui sont capables de s'identifier à ceci. Donc, la substance seconde. C'est intéressant de voir ça. L'être, puisque toutes les autres catégories se ramènent à la substance seconde. Donc l'être n'est ni substance première ni substance seconde. Commencez à comprendre pourquoi il y a substance première et substance seconde. S'il y a substance première et substance seconde, ça nous fait comprendre deux manières de concevoir la substance. Je ne dis pas deux états de la substance, mais deux manières de concevoir la substance. L'être n'est ni le sujet, le sujet existant. Là, Heidegger a en partie raison. L'être n'est pas l'étant. L'être n'est aucun étant. Aucun des étants que je constate et que j'expérimente n'est l'être. L'être est, n'est pas ses étants, et il n'est pas non plus toutes les déterminations qui s'identifient à cet étant. Donc l'être n'est pas non plus la substance seconde. L'être n'est pas non plus la qualité. L'être n'est pas non plus la quantité. Je nie toutes les catégories. Vous voyez l'importance de la négation. Alors, la situation de la négation pour Heidegger est antérieure à la saisie de l'être, alors que je dis la négation vient pour préciser la réponse à l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être. Je nie ça, ça je crois que nous pouvons tous comprendre cela. Et en même temps, je dois dire, seconde affirmation, alors ça c'est l'affirmation, je veux dire, l'être est présent dans la substance première, l'être est présent dans toutes les, la substance seconde et dans toutes les catégories. J'affirme les deux. D'abord, l'être n'est pas identique, l'être n'est pas la substance première, il n'est pas toutes les catégories, mais en même temps, je dois dire, l'être est présent. Alors là, je me sépare de Heidegger. Et je dis ça tout simplement par l'expérience que j'ai. Je suis bien obligé de dire que ça existe. Je disais que ça n'existait pas. Donc ça existe. Il y a une petite modalité d'être. La table existe. Petite modalité d'être. Ce n'est pas simplement une apparence. J'existe. Ce n'est pas seulement une apparence. Parce que je suis capable de me poser la question qu'est-ce que c'est que l'être ? Et je suis donc, l'être est donc présent dans le sujet, dans la réalité qui existe, dans les étangs qui existent et dans toutes les déterminations. Alors vous comprenez que c'est là où je vois tout de suite toutes ces déterminations se ramènent à la substance première et à la substance seconde. Donc l'être n'est pas substance première et n'est pas substance seconde, mais il est présent dans la substance première et la substance seconde. Et c'est pour ça que je dirais que l'être, c'est l'ousia. Ce quelque chose de commun présent à la substance première et la substance seconde. Je crois que c'est la première approche que nous devons faire. Et ça nous fait comprendre pourquoi on l'appelle encore ousia. Je ne sais pas si vous suivez bien ce raisonnement que vous devez faire vous-même, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas induire. C'est la première manière d'induire. La première manière d'induire, c'est de comprendre que, je reprends pour que vous saisissiez bien ce raisonnement, à partir de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je reviens à l'expérience et nous savons pourquoi nous pouvons revenir à l'expérience, parce que la signification de l'être et la signification de « est la même. Je peux donc me dire que l'être n'est pas la substance première, n'est pas la substance seconde, n'est pas toutes les catégories. Ça, je crois que tout le monde comprend ça. Hein. C'est facile. C'est toujours plus facile la négation. Hein. On comprend mieux la négation. Deuxièmement, cependant, l'être est présent dans la substance première. Puisque quand j'ai dit ceci est, je n'ai pas dit ceci n'est pas. J'ai dit ceci est. Cette table existe. J'existe. Donc l'être est présent dans le ceci. Donc dans la substance première. L'être est présent dans la substance seconde. L'être est présent dans la qualité, dans la quantité. Ce sont des modalités d'être. L'être se donne à moi à travers la relation. L'être se donne à moi à travers l'action et la passion. C'est toujours des modalités d'être. Tout ça, c'est des modalités d'être. Donc, à la fois, vous voyez, l'être n'est pas ceci. Je ne peux pas l'identifier. Et en même temps, il est présent. Or, toutes ces déterminations se ramènent à ces deux principales, substance première, substance seconde. Donc, si je veux savoir ce que c'est que l'être, je ramène toutes ces autres déterminations à la détermination principale, la substance seconde et la substance première. Je peux donc ramener le problème à dire, n'est ni la substance première ni la substance seconde, et pourtant il est présent dans la substance première et présent dans la substance seconde. Il est donc ce qu'il y a de commun, le tikkunon, ce qu'il y a de commun dans la substance première et la substance seconde. Ce n'est pas le genre, hein, faisons attention, ce qu'il y a de commun à la substance première et à la substance seconde, et c'est pour ça que si c'est ce quelque chose de commun à la substance première et à la substance seconde, je vois comment je peux l'appeler l'ousia. Parce que les deux sont ousia. Ce qu'il y a de commun entre les deux, hein, c'est ousia. Mais faisons attention, hein, c'est pas uniquement au niveau du mot, c'est au niveau de la réalité. Qu'est-ce que signifie la substance première? Qu'est-ce que signifie la substance seconde? La substance première signifie le sujet existant, c'est-à-dire l'individu ineffable, le todéti. Pierre, voilà ce qui est, Pierre. Et puis, la substance seconde, l'homme. Alors, j'ai cette chose très curieuse, que l'être est donc le quelque chose de commun à l'individu et à la détermination essentielle, homme. L'être est donc source de toute détermination, mais au-delà des déterminations. Et il est ce qui peut rendre compte de l'individu, puisque seul l'individu existe. Il est donc source de toutes les déterminations et ce qui rend compte de l'individu dans ce qu'il a de tout à fait unique et original et ineffable. Au-delà des déterminations et source des déterminations. Voilà l'ousia. Voilà ce que c'est que l'être. Mais c'est une première approche que je crois très importante à bien faire. Parce qu'alors à ce moment-là, on se sert des catégories, c'est normal. On se sert des catégories pour comprendre, et c'est ça l'intérêt, pour comprendre pourquoi ce quelque chose de commun, on l'appelle encore ousia. Parce que ça, c'est une grosse question de savoir pourquoi, historiquement, pourquoi Aristote a appelé ousia dans le livre Delta, dans le livre Zeta, et pourquoi il a appelé substance première et substance seconde dans les catégories. Alors, j'essaie d'expliquer ça. Et j'explique ce point de vue-là parce que justement, l'être, c'est ce quelque chose de commun qui existe entre les deux. Première approche. Alors cette première approche, elle est évidemment très proche de tout ce que représente historiquement la recherche de l'ousia. C'est normal, hein? C'est normal. Maintenant, je peux me poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cet ousia que je découvre de quelque chose de commun? Qu'est-ce que c'est cette ousia? Je dis que cette ousia, elle est source de toutes les déterminations. Elle est principe de toutes les déterminations. Elle est donc au-delà de toutes les déterminations, comme source. Elle est dans la ligne des déterminations, puisqu'elle est source immanente, mais elle est au-delà. Et c'est pour ça qu'elle peut rendre compte de quelque chose qui est au-delà de la signification, qui est l'individu ineffable, qui existe. Il y a dans l'individu ineffable qui existe quelque chose qui est irréductible à toutes les déterminations. Et c'est présent dans l'ousia en tant qu'ousia et principe. Oui, seconde approche, ça. Donc, l'être, dans ce qu'il a de tout à fait primordial, il est source de toutes les déterminations. Il est source de toutes les déterminations. Pourquoi? Parce que, de fait, l'expérience que j'ai des réalités qui existent implique toutes ces déterminations. Et donc, l'être est source de toutes... Il n'est pas ces déterminations, telle ou telle détermination, mais la source de toutes ces déterminations. Donc, le principe radical de toutes ces déterminations. Et étant principe radical de toutes ces déterminations, il peut être, dans la ligne même de l'être, ce qui rend raison, ce qui est à la source de l'individu. Ceci nous aide à comprendre ce que c'est que l'ousia comme arché, comme principe. Je peux, troisième approche, toujours essayer Étant donné que c'est difficile, c'est pas commode, hein, c'est une induction. On va essayer de comprendre mieux l'induction maintenant, en la développant. Je peux développer cette induction tout simplement par le « je suis ». Ma façon plus, si vous voulez, plus proche de ma propre expérience. Quand je dis « je suis », j'inclus dans cette expérience toutes les déterminations particulières que je peux expérimenter. Je suis dans mon activité. Je suis présent dans mon activité. Je suis présent dans mon sommeil. C'est sûr. Je ne vais pas dire que c'est un autre qui va dormir pendant que vous ne savez pas où vous êtes. Donc vous êtes au-delà de la conscience. Le « je suis » est au-delà de la conscience. Le « je suis » ne s'identifie pas à la conscience. Autrement, vous devriez dire que dès que vous perdez conscience, alors je comprends très bien comment l'enfant ne veut jamais dormir, parce qu'il a très peur de perdre sa conscience, et en perdant sa conscience, il perd son être. Tandis que si vous êtes un tout petit peu plus raisonnable, vous comprenez qu'en perdant votre conscience, vous ne perdez pas votre être. Vous restez « je suis ». Celui qui dort, c'est « je suis ». Et celui qui se réveille, c'est celui qui « je suis ». Celui qui a telle ou telle qualité, c'est encore moi. Ma quantité, c'est encore moi. Je vois donc toutes mes déterminations. Faites le « je », hein, c'est tout ça, c'est très simple à faire, c'est pas la peine de détailler trop. Toutes les 10 catégories ramenées à « je suis ». Je suis présent dans toutes ces catégories. Je suis présent dans ma nature humaine qui existe. Je suis un homme. Je suis un individu unique, séparé des autres, distinct des autres. Et quand je perds mon identité, ça devient grave. Je me transpose dans le voisin et le voisin se trouve doublement alourdi. Parce que de fait, il n'y a pas que lui, il n'y a que moi qui est dedans. Alors, je sais très bien que je suis distinct de lui, je suis autre que lui. Ce « je suis » n'est aucune de ses déterminations, et il est présent dans toutes ses déterminations. Je ne peux pas dire que le « je suis », c'est mes 50 kilos, ou mes 70 kilos, ou mes 150 kilos. Ce n'est pas ça, le « je suis ». Et pourtant, ces kilos, c'est moi. Mon intelligence, c'est encore moi, mais je ne peux pas m'identifier à l'intelligence. Oui, je retrouve le même problème, le dépassement de toutes les déterminations et pourtant la présence de toutes les déterminations dans le « je suis ». Ça, là, je crois, vous pouvez facilement faire ça, ça c'est facile à comprendre. Qu'il y a donc quelque chose de particulier quand vous dites « je suis », vous ne pouvez pas le ramener aux 10 catégories. Et pourtant, le « je suis » est présent à ces 10 catégories. Autrement, ces 10 catégories n'exprimeraient rien du tout de vous. Vous êtes donc en face d'une unité dans la diversité. J'explicite mon induction. Vous êtes donc en face d'une diversité, d'une unité. La diversité n'explique jamais l'unité. L'unité est présente dans cette diversité. Vous êtes présent dans la diversité de vos déterminations. Vous êtes présent dans la diversité de vos déterminations, c'est-à-dire dans votre quantité, dans vos qualités, dans vos relations. Vous êtes présent dans cette diversité. Mais cette présence n'explique pas cette diversité. Et cette diversité n'explique pas l'unité. Il faut donc se poser la question, pourquoi cette unité dans cette diversité ? Vous voyez, c'est analogue à la saisie de l'âme. Il y a quelque chose d'analogue, mais à la place de me mettre au niveau proprement du vivant, je me mets au niveau de mes déterminations, au niveau de mes formes qui me déterminent, au niveau des diverses catégories qui sont présentes en moi. Je dis donc qu'il y a diversité et unité. Je crois que c'est ça qu'il faut bien saisir. Il n'y a d'induction que lorsqu'on découvre dans la diversité l'unité. Quand vous êtes en face de l'unité, sans une diversité dans l'unité, vous n'induisez pas du tout. Pourquoi je suis moi qui suis moi. C'est tout simplement parce que je suis moi. Et bien, je ne fais rien d'autre. C'est pour ça qu'Aristote dit qu'il n'y a pas d'interrogation quand on se pose pourquoi l'homme est homme. Et l'homme est homme parce qu'il est homme. C'est vrai. Pourquoi l'homme est homme? Mais il est homme. Tandis que vous posez un pourquoi lorsque vous êtes en face d'une unité dans la diversité. Alors vous dites pourquoi cette unité dans cette diversité? Oui, c'est très important de voir l'interrogation qui vient toujours de l'unité dans la diversité. Quand vous regardez au contraire une réalité en elle-même, et vous la regardez pour elle-même, mais vous n'interrogez pas. Pourquoi l'homme est homme? Il est homme, tout simplement. Tandis qu'au contraire, quand vous voyez la diversité, et à l'intérieur de la diversité l'unité, alors à ce moment-là, vous posez la question, pourquoi cette unité? Et c'est quand vous êtes en face de ce pourquoi cette unité, que vous dites qu'il y a une source au-delà de la diversité, une source présente dans cette diversité, et au-delà de cette diversité, qui peut seule me faire saisir la signification de cette unité dans cette diversité. Il y a nécessairement une source, un principe, présente pour expliquer comment, dans cette diversité, il y a l'unité. Ce principe, source de cette unité dans cette diversité, au niveau propre des déterminations, c'est ce qu'on appelle l'ousia. C'est ce qu'on appelle la substance. Elle est donc principe d'unité. Elle est principe d'unité à l'intérieur même de cette diversité.
Quelle place on doit mettre l'intuition de l'unité dans la diversité par rapport à l'intuition?
Oui, mais c'est, faisons attention. Hein. L'intuition de l'être dont nous avions parlé avant, c'était quelque chose de beaucoup plus général. Vous voyez ? C'était par rapport à toutes les réalités qui existent. Et je disais que toutes ces réalités qui existent, elles existent dans leur diversité même. La table, le chat, moi-même. N'est-ce pas ? Et je disais que tout ça existe. Puisque tout ça existe, tout cela implique une diversité très fondamentale dans la diversité et en même temps une espèce d'unité. Ça, c'est très général au niveau de l'être. Maintenant, je reviens à je suis, moi-même. Vous voyez, c'est plus au même niveau, hein, moi-même. Je vois qu'en moi-même, il y a cette diversité énorme. Je retrouve toutes les catégories en moi, puisque toutes les catégories sont sorties de moi. Alors, j'ai tout à fait le droit de dire, j'existe avec ma quantité, j'existe avec mes qualités, c'est toujours moi. N'allez pas dire que votre intelligence n'est pas vous. Ça deviendrait inquiétant. N'est-ce pas ? N'allez pas dire que votre volonté n'est pas vous. N'allez pas me dire que les relations que vous avez avec un autre vous aliènent. Elles peuvent vous aliéner, mais elles peuvent aussi vous enrichir. Ça dépend de quelle manière vous les regardez. Donc, vous voyez que c'est encore vous, à travers ces relations. Donc, vous voyez là la diversité, l'unité par rapport à vous-même. Par rapport à cette affirmation « je suis ». Votre existence ne peut pas se ramener à une des catégories. Votre existence ne peut pas se ramener même à la catégorie première, c'est-à-dire sujet ineffable. Votre existence est autre chose que ça. Elle implique dans cette diversité une unité. Il y a une marque d'unité. Et je pose la question, pourquoi cette unité dans cette diversité? Oui, je pourrais simplement décrire, hein, je pourrais très bien décrire. C'est ce que font la plupart des gens. La plupart des gens uniquement décrivent. Alors, si vous décrivez, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'écrire l'harmonie qui existe en vous. Parce qu'au fond, tout le problème de l'harmonie consiste à essayer de ramener la diversité à une certaine unité consciente. Alors, à ce moment-là, vous harmonisez votre vie. Et votre vie, vous l'harmonisez pour que, justement, elle ne parte pas dans tous les sens. Oui. Donc, vous pouvez très bien décrire cela. À ce moment-là, vous ne découvrez pas l'ousia. Vous ne découvrez l'ousia que lorsque vous interrogez qu'est-ce que c'est que l'être. et que, de fait, vous voyez cette diversité et dans cette diversité, l'unité. Et vous voyez que l'être est aussi bien la diversité que l'unité. L'être est les deux. Comme l'être est la substance première et la substance seconde. L'être est les deux. Alors, j'interroge, qu'est-ce que c'est que l'être ? Puisque l'être est les deux, l'être ne peut pas se ramener à l'un et l'autre, donc l'être est au-delà des deux. L'être est au-delà de l'unité et au-delà de la diversité, que je trouve ça par moi. Et je peux dire à ce moment-là que l'être, dans ce qu'il a de plus fondamental, est source de cette diversité, de cette unité. Principe source. Et que je l'appelle Ousia, c'est-à-dire en souvenir des prédicaments. C'est ça qui est très amusant. En souvenir des prédicaments, vous comprenez bien. En souvenir des prédicaments substance première et substance seconde. Et ça, je comprends très bien qu'on ait appelé substance première et substance seconde. La substance première, c'est le sujet radical auquel tout le reste est attribué. La substance seconde, c'est l'attribution principale. Alors, en souvenir des prédicaments, je l'appelle Ousia. Oui. On fait mémoire de, en souvenir de, et c'est vrai, c'est ça qui est important, c'est de saisir le principe. C'est le nom, peu importe, hein, je suis bien obligé de mettre un nom, puisque je n'ai pas l'expérience directe de l'Ousia. Je saisis l'Ousia comme un dépassement. Mon intelligence la pose nécessairement si je veux comprendre, saisir cette unité dans cette diversité. Et c'est ce qui explique le petit exemple que prend Aristote dans le livre Zeta, chapitre 17, où Aristote dit, ça c'est très grec, il prend bas. Il dit bas, mais ni bénia. C'est sûr. Bas, mais ni bénia. Parce que quand vous dites b et quand vous dites a, vous ne dites pas bas. Donc bas, c'est ni bénia. Et qu'est-ce qui va expliquer cette unité ? Ce n'est ni B ni A. Il y a donc quelque chose qui est au-dessus de B et A qui fait cette unité de bas. Et c'est vrai. C'est tout, dès que vous êtes en face de quelque chose qui est composé et que ce quelque chose de composé implique une unité qui ne peut pas se ramener aux éléments, il y a donc quelque chose qui doit expliquer cette unité. Et ce quelque chose qui explique cette unité, c'est le principe qui est capable, étant au-delà des éléments, de ramener les éléments à l'unité. Et ce quelque chose de capable, c'est l'Ousia. C'est ce qu'on appelle l'Ousia. Et on appelle l'Ousia en mémoire des catégories. Et c'est très curieux de voir combien les catégories jouent un rôle important, un rôle de fond. C'est ce fond vers lequel on revient tout le temps. Les catégories étant pré-philosophiques ont cet immense avantage que tout le monde les accepte. Tandis que l'Ousia philosophique, tout le monde ne l'accepte pas. Parce qu'il s'agit de faire un saut périlleux. L'induction est un saut périlleux. Je quitte les déterminations habituelles pour saisir quelque chose que seule mon intelligence saisit. Je n'expérimente pas l'Ousia comme principe. Je dis, il est nécessaire de poser cet Ousia. Mais je n'en ai pas l'expérience, je la saisis intellectuellement. Et c'est pour ça que ça exige d'être intelligent. C'est l'intelligence qui saisit ça. L'intelligence est capable de dépasser l'aspect descriptif. Alors certaines intelligences sont incapables. Ça c'est très vrai, vas-y, entre les deux. Vous pouvez faire l'expérience des intelligences, vous verrez que certaines intelligences sont incapables d'induire. Et donc, si elles sont incapables d'induire, elles sont incapables à la philosophie. C'est quand même la philosophie demande cet effort de l'induction. Mais remarquez hein, que l'effort de l'induction est naturel, l'intelligence cherche ça. Il ne faut pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. L'intelligence cherche à induire, parce que l'intelligence cherche à connaître. L'intelligence veut intus legere, lire de l'intérieur. Et donc, elle veut saisir, comment se fait-il que cette manifestation se manifeste ordonnée ? Comment y a-t-il un ordre dans cette diversité ? quand il y a une certaine unité dans cette diversité, d'où ça vient? Qu'est-ce qui explique ça? Oui, l'intelligence veut se dire ça. Parce que l'aspect de la description n'est jamais satisfaisant pour l'intelligence. Une intelligence qui cherche ne peut pas s'arrêter à la description. Elle va aller plus loin. Et elle veut saisir ce qui va, vous voyez, être à la source de cette harmonie, de cet ordre dans cette diversité. Je dis que l'exemple de bas est très bon. Hein. Aristote donne ça pour nous reposer. Une fois qu'on a fait l'induction, on se repose en regardant bas. Oui.
On va donc dire que ce principe nous y a fait l'unité à l'intérieur de toute diversité, et en même temps que ce principe est au-delà de l'unité.
Forcément. Il n'est pas l'unité, puisque je l'ai détecté son effet. Mais c'est par l'unité que je le saisis. Oui. Puisque c'est au niveau de l'être, c'est pas au niveau de l'homme. C'est l'unité dans la multiplicité qui me permet de dépasser le point de vue de la multiplicité de l'unité. Et je saisis une source d'être. Au niveau, alors je peux répéter cette induction, il faut la répéter de multiples manières pour que petit à petit l'esprit acquiert un tout petit peu d'agilité pour faire ce saut périlleux. Vous mettez beaucoup de temps à pouvoir sauter, hein, avant de devenir un champion de saut, parce qu'il faut du temps. On met du temps. Vous faites un exercice, vous répétez un exercice. Vous acceptez de faire de multiples exercices du côté gymnastique et vous ne comprenez pas que l'intelligence a besoin de multiples exercices pour pouvoir se délier. L'intelligence, ce qu'Aristote appelle l'intelligence séparée. Parce que tant que l'intelligence décrit, l'intelligence n'est pas séparée du sensible. Et l'intelligence est capable de saisir un principe au-delà du sensible. Le principe, je ne le décris pas, je le saisis. Et c'est là où on saisit ce que c'est que l'intelligence. C'est quand l'intelligence est capable de saisir un principe. Tandis que quand elle décrit, bon, c'est très bien, c'est une intelligence qui reste toujours sur le sol. Et elle ne décolle jamais. Alors, elle n'est pas l'intelligence comme intelligence. C'est une intelligence reliée aux sensations. C'est une intelligence qui peut être une intelligence artistique, une intelligence symbolique. Alors, elle décrit. Mais une intelligence qui veut pénétrer plus avant doit nécessairement se servir comme tremplin. Le tremplin, vous voyez, c'est l'unité dans la diversité. Et c'est quand je me pose la question, mais loyalement, alors évidemment, on peut encore une fois s'asseoir en disant c'est suffisant, pas besoin de plus. Mais attention, il y a l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? S'il n'y avait pas l'interrogation, il n'y aurait pas l'induction. Le ressort de l'induction, le ressort de toute induction, c'est l'interrogation. C'est pour ça que c'est si important de comprendre l'interrogation dans toute sa force. Qu'est-ce que c'est que l'être? Parce que dès que je vois qu'est-ce que c'est que l'être, je ne peux pas m'arrêter aux déterminations. Je ne peux pas, parce que toutes les déterminations sont multiples. Et qu'est-ce que c'est que l'être? On n'est pas dans la multiplicité. Puisque nous avons eu l'intuition de l'être, justement, de ce qui unifie la diversité. Alors, je ne peux pas m'arrêter à l'unité. Je ne peux pas m'arrêter à l'unité, puisque l'unité est dans la diversité. Je suis obligé d'aller dans cette source d'unité, de diversité. Et c'est ça, Lucia. Oui, comment nous pouvons... Je prends donc ces trois approches successives. Prenez ces trois approches. Vous pouvez, dans l'étude sur l'être, en voir d'autres. Mais au fond, ces trois approches, je crois qu'elles ont l'avantage d'être proches des catégories d'Aristote et de faire comprendre pourquoi on a mis Lucia. Alors, maintenant, une fois qu'on a saisi ça, une fois que vous avez fait le saut périlleux, je présuppose que vous l'avez fait. Hein. Je ne peux pas le faire pour vous. C'est très gênant. Je peux vous montrer le tremplin, tout ce qu'on doit faire. Mais le saut périlleux, c'est vous. C'est ce que ce vieux professeur, c'est le père de l'eau qui disait toujours ça. Il dit, quand on lui pose des questions, je peux bien vous montrer l'intelligible, mais pas vous donner l'intelligence. L'intelligible, oui, on vous montre l'intelligible, la diversité d'une idée. Mais l'intelligence, c'est vous. Alors, paraît-il qu'à ce moment-là, il y avait un poulailler à côté de la salle de course, c'était quand c'est le souvenir d'étudiants. Chaque fois qu'il disait ça, le coq chantait. Évidemment, tous les étudiants, c'était l'intelligence, peut-être quelque chose. C'est vrai, il faut réveiller notre intelligence. Et on réveille notre intelligence en l'habituant à induire. En l'habituant à induire. En l'habituant à interroger et induire. L'interrogation est première. Pour ça, l'interrogation, je crois qu'on peut tous. Mais il faut répondre à l'interrogation. Si vous avez la spiritualité de la planche, vous ne répondez pas à l'interrogation. Vous êtes devant une interrogation qui vous dépasse. Je ne sais pas ce que vous dites. Oui, maintenant, vous vous asseyez. Vous faites la planche. Tandis que si vous voulez vraiment répondre, vous revenez, et là vous revenez à cette réalité complexe qui pourtant est une dans son existence. Et vous revenez à vous-même, puisque c'est toujours par rapport à vous que vous induisiez la substance. Hein. Comprenez bien, c'est par rapport à l'homme. Vous pouvez le faire par rapport à la vache, si vous voulez, mais c'est plus difficile, vous pouvez le faire par rapport à l'homme. C'est qu'il y a une unité d'être dans l'homme. Il y a une idée d'être dans l'homme, c'est bien évident, je suis un dans mon être, et je suis complexe dans mes déterminations. Plus grande des complexités, dans mes déterminations. Et il y a une unité à travers toutes ces déterminations. L'être est dans cette complexité, l'être est dans l'unité, mais l'être n'est ni la complexité, ni l'unité. Il est au-delà. Et alors cet au-delà, c'est ce principe, cette source, oui, c'est l'être dans ce qu'il a de fondamental, dans ce qu'il a de primordial. Hein. Ce n'est pas exclusif, puisque c'est source de toutes les autres déterminations, et toutes les autres déterminations existent. Mais c'est l'être dans cette source première et fondamentale, l'ousia, ce qu'on appelle l'ousia. Une fois que j'ai précisé ça, une fois que j'ai précisé ça, je vois tout de suite que l'ousia ne peut pas s'identifier au sujet. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à la scolastique décadente. Parce que la scolastique décadente a identifié l'ousia et le sujet. Et vous comprenez pourquoi? Parce que la scolastique décadente à identifier logique et métaphysique. Or, en logique, qu'est-ce qu'il y a de primordial? Le sujet. Donc, ce qu'il y a de primordial en métaphysique, c'est le sujet. S'il y a identification entre logique et métaphysique. Ça, c'est intéressant, parce que ça nous montre tout de suite que la base scolastique, hein, et il faut remonter loin, vous savez. Moi, j'ai fait l'enquête, ils vont monter très loin. Et tous les manuels de scolastique se répètent. Et tous les professeurs de scolastique se répètent. N'est-ce pas? C'est plus facile de se répéter. On n'a pas besoin de rechercher. Alors, je ne peux pas identifier substance et sujet. La substance n'est pas le sujet. Mais la substance rend raison du sujet. La substance rend raison du sujet, c'est bien évident. Puisque grâce à la substance qui pourra se concrétiser dans notre monde physique d'une manière telle qu'elle reçoit toutes les déterminations, puisque toutes les déterminations viennent d'elle, et donc on peut les renvoyer, elle va jouer ce rôle de sujet. Vous voyez ? Vous savez, ce serait très intéressant, une fois qu'on voit ça, on fait ça, on voit la différence entre le point de vue de la substance et du sujet, mais on voit que la substance rend raison du sujet. Et donc, si la substance rend raison du sujet, je pourrais, si j'avais un regard suffisamment pénétrant, un regard d'être, je pourrais uniquement, en regardant le sujet, substance première, découvrir l'ousia. Parce que je verrai la fonction. Le sujet, c'est une fonction. Fonction, sujet. Être sujet. Quand vous portez des tas de choses sur vous, vous êtes sujet de tout ce que vous portez sur vous. Donc, c'est une fonction d'être sujet. On reçoit toutes les déterminations. Cette fonction, elle existe. puisque ces déterminations s'identifient dans cet être individuel. Il faut donc saisir le pourquoi de ce sujet. Et le pourquoi de ce sujet, puisque c'est un sujet dans l'ordre de l'être, le pourquoi de ce sujet montrerait que la fonction n'est jamais première dans l'ordre de l'être. Il n'y a pas de métaphysique des fonctions. Fonction, c'est toujours quelque chose de second. Oui. Sauf quand la fonction est tellement lourde qu'elle écrase la personne. Ça existe de temps en temps, hélas. Mais alors à ce moment-là, on sait ce que ça veut dire. C'est que la personne est écrasée par sa fonction. Elle ne respire plus. Situation limite de la personne, d'être écrasée par sa fonction. Mais ça, c'est pas métaphysique, hein, d'être écrasé par sa fonction. Non, c'est très bien ce que ça veut dire. C'est qu'une fonction est toujours quelque chose de second. La fonction n'est jamais primordiale. Vous savez bien, je pourrais donner des tas d'exemples là-dessus. C'est toujours très risible de voir quand la fonction étouffe la personne. C'est même, je crois, toutes les caricatures. Regardez, toutes les caricatures, les bonnes caricatures politiques, montrent toujours la fonction qui écrase la personne. Alors, la personne a des masques différents, selon ses fonctions. Elle a la diversité. Alors, on voit très bien ça, c'est très très intéressant, parce que ça donne une possibilité pour nous, avec notre sens artistique, de saisir qu'en effet, je ne peux pas m'arrêter à la substance première. C'est une fonction. Fonction. Je ne peux pas m'arrêter à la logique. La logique, c'est une fonction. Je dois donc redécouvrir, au-delà de la fonction, ce qui est. Et donc, dans la substance première, découvrir ce qui est. Ce qui permet à la fonction d'exister. Et c'est la substance, c'est l'être premier. Vous voyez, c'est pour essayer de comprendre. C'est ce que je fais là, vous voyez, c'est un détour pour, ayant découvert la substance, je vois que la substance a comme fonction d'être sujet. Ça, je crois qu'on peut tous comprendre ça aussi. La substance a comme fonction d'être sujet. Mais, si la substance a comme fonction d'être sujet, je peux, à partir de la fonction, redécouvrir ce qui est antérieur à la fonction. Et comprendre comment la fonction peut détériorer ce qui est antérieur à la substance, ce qui est antérieur à sa fonction, quand cette fonction devient trop lourde. Alors, au point de vue de la pensée, c'est très intéressant, ça. C'est très intéressant, c'est de voir comment, de fait, la fonction sujet a écrasé la réalité du principe de ce qui était premier. Deuxièmement, la substance, et non seulement elle joue ce rôle de sujet, mais la substance, elle est aussi principe d'intelligibilité. Ça, c'est pour essayer de comprendre la différence qui existe entre l'ousia et le totienaïma. Le totienaïma, nous l'avons déjà vu, c'est dans le fait d'exister ce qu'il y a d'intelligible et qui demeure, le tien. Pourquoi cette réalité est comme ça? Pourquoi cette réalité demeure comme ça? C'est l'intelligibilité. L'intelligibilité propre. Quelle est votre intelligibilité propre? Quelle est votre intelligibilité propre? C'est d'être homme. C'est votre intelligibilité propre, c'est d'être homme. Vous avez des intelligibilités secondes, c'est que vous êtes homme de telle manière. Vous êtes homme du XXe siècle. Vous êtes homme de la dernière partie du XXe siècle. C'est une manière particulière d'être homme. Mais c'est votre intelligibilité seconde, ça. Ce n'est pas le XXe siècle qui donne votre intelligibilité. Ce n'est pas votre situation historique qui est votre intelligibilité profonde. Sauf si vous êtes submergé par le XXe siècle. Alors à ce moment-là, vous avez perdu votre notion d'homme pour n'être plus du XXe siècle. Ça existe, ça. Vous voyez, ça peut exister. C'est une autre manière de perdre sa personnalité. Il y a la fonction et la temporalité. Vous savez bien, la temporalité peut étouffer la substance. et on se définit uniquement en fonction de sa temporalité. Historiquement, c'est vrai. Historiquement, c'est ça. Mais la personne, c'est plus que l'historique. Sauf pour certaines personnes qui sont des personnes historiques. Alors à ce moment-là, elles sont uniquement dans la temporalité. Et pas autre chose, elles sont uniquement dans la temporalité. Alors à ce moment-là, vous voyez, l'intelligibilité foncière et première a disparu. Il ne reste plus que l'intelligibilité seconde, être dans le temps, catégorie temps. Être dans telle situation, toute ma vie, ça a été d'être dans cette situation-là. Cette situation, ça a fait ma vie. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est des gens qui ne cherchent pas la gloire. Alors la gloire les étouffe, et la gloire c'est toujours une situation. La gloire de Gaulle, situation. C'est évident que c'est une situation qui fait la gloire de quelqu'un. C'est la situation qui... Alors, à ce moment-là, on se définit en fonction d'une situation, en fonction de la gloire. C'est très curieux, ces choses. C'est très intéressant à étudier philosophiquement. Vous voyez, de voir ce que représente le toti eneinan d'un individu, d'un homme. Est-ce que votre toti eneinan, votre intelligence, c'est d'être homme ou c'est d'être à ce moment particulier où j'ai cristallisé tout ce que la propagande pouvait dire? On a parlé de moi. J'ai cristallisé à ce moment-là toute l'opinion du monde. Et c'est ça mon intelligibilité. Vous voyez, à ce moment-là, la temporalité l'emporte sur le point de vue de l'homme. Alors le toti eneinan se ramène à une chose seconde. Normalement, le toti eneinan, l'intelligibilité propre, donc c'est l'homme. Sur quoi se fonde cette intelligibilité? Elle se fonde sur l'ousia. Mais l'ousia n'est pas l'intelligibilité. Et ça, c'est très important à saisir. L'ousia n'est pas l'intelligibilité. Pourquoi? Parce que l'ousia est le principe d'être. Et l'être ne sera même pas l'intelligibilité. En faisant ça, je me sépare de Platon, je me sépare de Descartes, je me sépare de tout ontologisme, je me sépare de la phénoménologie, je me sépare de tout l'idéalisme, en voyant que l'ousia n'est pas l'intelligibilité, mais que l'ousia fonde l'intelligibilité. L'ousia est souverainement intelligible. C'est ce qu'il y a de plus intelligible, c'est l'ousia. Et donc, principe d'intelligibilité. Elle est principe d'intelligibilité, mais elle n'est pas le toti eneinan. Je ne peux pas ramener l'ousia au toti eneinan.
Et l'intelligibilité propre, est-ce que c'est la raison d'être?
D'une certaine manière, c'est votre raison d'être, oui. Mais au fond, vous voyez, j'aime mieux prendre l'intelligibilité que la raison d'être. Parce que votre raison d'être, attention, si vous insistez sur la raison d'être, ou si vous insistez sur l'être, la raison d'être, quand je parlerai uniquement de la raison d'être, je dirais que ma raison d'être, c'est le principe fondamental d'être. Alors mon principe fondamental d'être, c'est mon vision. C'est pas mon intelligibilité. Vous voyez? Donc votre raison d'être, c'est votre ousia, c'est pas l'intelligibilité. Mais c'est très vrai que tout être est intelligible, parce qu'il est, du fait même qu'il est. C'est une conséquence. Et c'est pour ça que je dis que l'ousia est principe d'intelligibilité, mais n'est pas l'intelligibilité. Alors, c'est ceci qu'il faut... Bon, on continuera ça la fois prochaine, pour essayer de comprendre comment l'ousia a son intelligibilité propre, et elle est sujet, mais elle est au-delà, elle est principe. Principe d'être. Je sais bien, c'est difficile à saisir, mais c'est très important de faire ce dépassement par rapport au sujet et par rapport au toti eneinan, c'est-à-dire par rapport à l'intelligibilité. Pour saisir que le point de vue de l'ousia, c'est premier dans l'ordre de ce qui est.